Alors le jour de Pâques, on se salue en disant, je vous dis, Jésus est ressuscité, et vous répondez, Jésus est vraiment ressuscité. Alors, Jésus est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Amen, amen. Et avant sa résurrection, il a traversé effectivement des moments les plus sombres qu'un homme, pas n'importe quel homme, peut traverser. Et j'aimerais vous demander, est-ce que vous avez déjà ressenti des moments de solitude intense dans votre vie? On a tous, n'est-ce pas, des moments où on s'est rappelé où on s'en était vraiment seul, incompris de tous. Ça arrive à l'adolescence parfois. On se dit, personne ne me comprend. Alors que bon, c'est pas toujours le cas, mais parfois c'est le cas. On se sent incompris et on a l'impression que personne ne nous comprend. Dans notre récit, le récit de Pâques, nous allons voir quelqu'un qui s'est senti très seul. Jamais personne ne s'est senti seul comme lui et n'a été seul comme lui. Il s'agit bien sûr de Jésus. Mais il a été seul pour que nous ne soyons plus jamais seuls. J'ai intitulé mon message « Plus jamais seul ». Et je vous invite justement à prendre le récit de la crucifixion dans Matthieu chapitre 27 à partir du verset 32. Et je ferai en deux fois la lecture. On fera une pause à peu près, pas tout à fait à la fin du message, mais on prendra un chant et ensuite je continuerai. Et puis après on aura un moment de louange tous ensemble. Donc Matthieu 27, chapitre 32, chapitre 27 à partir du verset 32, je vais prier avant. Père Saint, je te remercie encore pour ta parole, Seigneur. Merci de nous ouvrir le cœur pour la laisser pénétrer, pour qu'on la laisse pénétrer pleinement, pour qu'elle change nos vies, notre mentalité, nos paroles, notre esprit, pour être vraiment, Seigneur, à ta ressemblance. Seigneur, prends toute la place, nous déposons, Seigneur, à l'extérieur, tout ce qui ne t'appartient pas, tout fardeau qui nous empêcherait de recevoir pleinement ta parole. Merci Père d'agir et je me repose sur toi pour la dispenser en Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Matthieu 27, 32. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête, en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu. Descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Si les rois d'Israël qu'il descende de la croix, ils nous croiront en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte « Eli, Eli, lama sabachthani », c'est-à-dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dirent « Il appelle Eli ». Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui, pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Assurément, cet homme était fils de Dieu ». Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc, et le disposa dans un sépulcre neuf, qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre, et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu pour le moment. Plus jamais seul. Jésus a connu la solitude extrême, comme jamais personne ne l'a connue, pour que nous ne soyons plus jamais seuls. Et c'est ce que je vous propose de voir en trois points. Donc, premièrement, nous verrons que Jésus a connu la solitude dans la moquerie des incroyants. Deuxièmement, nous verrons que Jésus a connu la solitude dans sa souffrance à la fois physique et morale. Troisièmement, nous verrons que sa solitude face à la mort nous fait sortir de notre solitude. Premièrement, donc, voyons la solitude de Jésus qu'il a connue dans la moquerie des incroyants. Voilà donc Jésus qui va vivre une journée qui est à la fois courte pour lui, mais qui va être la plus longue en souffrance. Après donc le simulacre de procès qui a eu lieu la nuit précédente, une journée donc où ses souffrances vont culminer jusqu'à la mort, souffrance extrême. Il est déjà dans un état de physique de faiblesse extrême. Alors les soldats, voyant qu'il ne pouvait pas porter sa croix, en tout cas tout seul, eh bien, physiquement, ils vont faire appel à un passant qui venait d'Afrique du Nord, Cyrène. On suppose que c'était en Tunisie. Donc c'était très probablement un arabe. Ils vont le forcer donc à porter la croix de Jésus derrière lui, jusqu'à Golgotha, où Jésus va être crucifié. Avant de crucifier Jésus, comme il était d'usage, les soldats lui proposent du vin mêlé de myrrhe, ou d'absinthe si vous préférez. C'était une drogue pour apaiser les souffrances des crucifiés. C'était une drogue. La drogue, c'est un fléau aujourd'hui. C'est très facile de s'en procurer, de la drogue douce à la drogue douce à la drogue dure. Une drogue qui touche la jeunesse, parfois de plus en plus jeune. Malheureusement, on a entendu un frère chez qui qu'on a visité qui nous a dit que les dealers viennent trafiquer dans la campagne, presque devant sa porte. Et qu'ils l'ont même tabassé, selon ses dires. Ils ont même tabassé un de ses voisins qui a voulu les chasser. La drogue, pourquoi tant de gens prennent-ils de la drogue ? N'est-ce pas pour apaiser leurs souffrances, pour oublier les soucis, pour oublier la souffrance? Mais Jésus, lui, n'en a pas pris. Il allait traverser la pire souffrance. Il n'a pas pris, il a refusé d'en prendre. Il voulait être pleinement conscient et déterminé jusqu'au bout dans ce qui est l'aboutissement de sa mission, ce pourquoi il est venu sur terre, c'est-à-dire mourir sur la croix pour nos péchés. Mourir sur la croix pour nos péchés, c'était son dernier acte d'obéissance sur terre. Et il voulait être pleinement conscient de cela. Et c'est parce que Jésus n'en a pas pris de cette drogue que nous avons ces dernières paroles qu'il a dites en croix. On a vu mercredi dernier, lors de notre rencontre de prière, les sept dernières paroles de Christ. Et nous connaissons ces paroles dites dans les quatre évangiles, mises ensemble dans les quatre évangiles. Il est 9h du matin, il est crucifié. Jésus est venu de très haut. Lui, le Fils de Dieu, il a quitté son trône, il a quitté son ciel pour venir vivre sur la terre, la vie des hommes, sans jamais pécher. Et il a été élevé de la terre à la croix, exposé à la vue de tous. Jésus, donc, continue sa descente inexorablement vers la mort, tout en étant élevé sur une croix entre ciel et terre. Et c'est ce que, effectivement, Jésus savait, qu'il était venu pour ça. Il avait dit dans l'évangile de Jean, chapitre 3, versets 14 et 15, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Il avait déjà annoncé sa passion, ses souffrances. Jésus a toujours refusé de se donner en spectacle quand on lui demandait de faire un miracle. Il ne se laissait pas manipuler. Et là, eh bien, Jésus va être donné en spectacle, exposé à la vue de tous. Pendant 6 longues heures, de 9h le matin à 15h l'après-midi, un spectacle qui va faire rire les uns, les incroyants, et qui va faire pleurer les autres, les croyants. Il est entre ciel et terre. Il est aussi entre deux brigands, un à sa droite et l'autre à sa gauche. Exposé donc comme un malfaiteur, ce qu'il n'est pas. Et il accomplissait ainsi la prophétie d'Ésaïe, dite quelques 700 ans plus tôt, en Ésaïe 53, verset 12. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Et malfaiteur, la définition du mot malfaiteur, hein, le mot qui est utilisé, ça désigne un violeur de la loi, un sans-loi. Alors que Jésus était tout le contraire. Il avait parfaitement accompli la loi mosaïque. Il était donc encadré de deux malfaiteurs, un à sa droite et l'autre à sa gauche. Et est-ce que vous vous souvenez de deux disciples qui avaient demandé à Jésus d'être l'un à sa droite et l'autre à sa gauche? C'était Jacques et Jean. Jésus leur avait répondu, vous ne savez ce que vous demandez. Et pour cause. Est-ce qu'ils auraient fait cette même demande s'ils avaient compris qu'avant la gloire, il y a la croix? Avant la gloire, il y a la croix. Les soldats ont tiré au sort ses vêtements. Jésus est venu sur terre, il n'avait pas une maison à lui, il n'avait pas de possession. Sa seule possession était ses vêtements. Les soldats ont tiré au sort ses vêtements pour se les partager. Alors, les tableaux ne le représentent pas habillé, il ne le représente pas nu, pardon, mais il était nu. Lorsque les crucifiés ont crucifié les brigands, ils étaient nus. Et là, les soldats ont tiré au sort ses vêtements. Il était nu, exposé en spectacle, à la vue de tous. La nudité, elle est apparue la première fois dans l'humanité avec Adam et Ève. Et ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus lorsqu'ils avaient désobéi. Et avec la désobéissance est apparu pour la première fois le sentiment de honte. Ils ont eu honte d'être nus. Notre péché nous exposait à la honte et au mépris éternel. Mais Jésus a voulu nous en délivrer. Et pour nous en délivrer, notre Seigneur a accepté de porter notre nudité et notre honte pour nous revêtir de son salut et de sa justice, pour nous habiller de son salut et de sa justice. Motif de sa condamnation, que tout le monde pouvait lire sur la croix, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs, ce qu'il est. Mais Jésus, il est moqué. Moqué par les passants, monsieur et madame tout le monde, qui doutent de sa puissance. Il avait certainement entendu dire, dans l'évangile de Jean, chapitre 2, verset 19, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Mais il n'avait pas compris que Jésus parlait du temple de son corps et qu'il était assez puissant pour se sauver lui-même. Mais il ne le fera pas à ce moment-là. Il le fera, mais uniquement après sa mort, lorsqu'il ressuscitera 3 jours après. Et les passants, donc, ainsi que les religieux, le mettent au défi. Le défi de quoi faire? De descendre de la croix, s'il est ce qu'il prétend être, s'il est vraiment le Fils de Dieu. Il voulait le voir descendre de la croix pour croire. Mais le principe de Dieu est à l'opposé. Jésus avait dit à Marthe, avant de ressusciter son frère Lazare, il lui avait dit « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Le principe de Dieu, c'est pas « vois et tu croiras ». Le principe de Dieu, c'est « si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. » Alors que eux voulaient d'abord le voir, voir descendre de la croix. Les religieux disent au verset 42 « Il a sauvé les autres et ne peut se sauver lui-même. » Et c'est partiellement vrai. Parce qu'il pouvait se sauver, il pouvait descendre de la croix, mais il ne le fit pas, pourquoi? Pour nous sauver. Les deux brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche, insultaient aussi Jésus. Et les autres évangiles nous disent qu'il y a un des deux qui s'est repenti. Il a commencé à insulter Jésus, à se moquer de Jésus, mais à la fin, À la fin, il s'est repenti et Jésus lui a dit qu'il serait avec lui au paradis parce qu'il avait reconnu son erreur. Il s'était repenti, ce brigand. Jésus donc est exposé en spectacle, souffrant, seul, face aux insultes, aux blasphèmes, aux moqueries de la part de ceux qui ne croyaient pas en lui. Jésus abandonné de tous, même de ses disciples qui avaient pris la fuite. Ces disciples que Jésus avait pourtant pris le temps de former pendant 3 ans, ils ont tous fui, sauf un, l'apôtre Jean. Et puis voilà que entre midi et 15h, toute la terre est enveloppée de ténèbres. C'était pas simplement un phénomène local, c'était toute la terre est enveloppée de ténèbres. Et en effet, Jésus a dit « Je suis la lumière du monde ». Celui qui est la lumière du monde est en train de mourir. Et toutes les ténèbres enveloppent toute la terre, et pour cause, Jésus en est le créateur. Il est Dieu lui-même. Et c'est à 15h, au moment où sa solitude et sa souffrance ont atteint leur paroxysme, que Jésus va crier avec force « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et c'est une citation du psaume 22, verset 1. L'Écriture se cite elle-même. Et quelques-uns ont mal interprété ces paroles. Ils ont cru qu'il appelait le prophète Élie. Ils n'ont même pas cru que Jésus s'adressait à Dieu dans une dernière prière. Que ferait un mourant? Un mourant, sachant qu'il va mourir, ceux qui sont croyants en tout cas, ils font une dernière prière à Dieu. Mais ici, quelques-uns n'ont même pas cru que Jésus adressait une prière à Dieu. Ils ont cru qu'il s'adressait au prophète Élie, qui était mort bien longtemps avant. Ils l'ont pris pour un incroyant. Comble de l'indifférence et de l'incrédulité, ils ont pris Jésus pour un incroyant. Dans son cri, Jésus ne se plaignait pas de l'abandon de ses disciples, mais il se plaignait de l'abandon de son Père. Comment est-ce que vous réagissez lorsqu'on se moque de vous, lorsqu'on vous méprise? Personne n'aime ça, hein, n'est-ce pas? Personne. Vous vous sentez incompris, je ne mérite pas ça. Mais comment est-ce que vous réagissez? Ceux qui vous injurient, qui se moquent de vous. Eh bien là, nous avons le meilleur exemple qui soit. Imitons Jésus. Jésus ne s'est pas plaint de ses disciples, mais il a adressé sa plainte à qui? À Dieu. À Dieu son Père. Faisons comme lui. Jésus a méprisé la honte. Il s'est moqué de la honte. Littéralement. Voir Hébreux 12, 2. Jésus donc en croix. Autant un crucifié pouvait comprendre la souffrance physique lente de Jésus. Les deux crucifiés ont dû comprendre physiquement la souffrance de Jésus. Mais autant personne d'autre que Jésus ne pouvait comprendre sa plus grande souffrance, qui était morale celle-là, qui était celle d'être séparé de son Père, avec qui il forme un. Mon deuxième point, voyons la solitude de Jésus dans la souffrance physique et morale. Et c'était pas juste le sentiment d'être abandonné, c'était une réalité. Dieu l'avait vraiment abandonné. C'était pas juste un sentiment. Pourquoi? Parce que le prophète Habacuc, en chapitre 1, verset 13, donc parole de Dieu qui nous dit « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux regarder l'iniquité. » À ce moment-là, Dieu a détourné le regard de son Fils. Pourquoi? Parce qu'il portait les péchés de toute l'humanité, de tous les temps. Ceux de l'époque et aussi des vôtres et des miens. Et Dieu a détourné son regard. Et Jésus subissait le châtiment que nous méritions tous. L'Épître aux Romains, chapitre 6, verset 23, nous dit « Le salaire du péché, c'est la mort. » Le début du moins du verset dit « Le salaire du péché, c'est la mort. » Jésus est mort. Il va pousser son dernier souffle. Il était vraiment mort. Pourtant, il n'a jamais péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus est mort, vraiment mort, sans jamais avoir péché. Alors sa mort n'était certainement pas pour rien. Elle n'était certainement pas pour rien. D'un point de vue comptable, si on prend deux colonnes, débit et crédit, Jésus, par sa mort, il a débité sa vie pour nous créditer de sa vie. Jésus, par sa mort, n'a rien payé pour lui, puisqu'il ne méritait pas la mort. Mais sa mort a été le salaire pour nous obtenir un crédit dans notre colonne crédit. Sa mort nous a obtenu le crédit de la vie éternelle. Parce qu'il a payé, sa mort était le prix payé, il a payé intégralement pour nos péchés et nous donner gratuitement la vie éternelle. Je dis le verset en entier, Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Par sa mort, Jésus a non seulement porté et supporté la honte de notre péché, mais c'est encore beaucoup plus que ça. Il nous a donné la vie éternelle. En plus du pardon de nos péchés, il nous donne la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est quoi? C'est d'être H24 avec Dieu, d'être en permanence avec Dieu. Voilà ce que Dieu veut. Ce n'est pas juste le dimanche. Dieu veut être avec nous tous les jours et Jésus a rendu cela possible. La vie éternelle, c'est la présence permanente de Dieu dans notre vie. C'est plus qu'une vie qui ne durera jamais. C'est la présence permanente de Dieu dans notre vie, déjà ici, maintenant, pour celui qui croit en lui. Mais pour Jésus, ça a coûté très cher. Ça a coûté la séparation avec son Père. Jésus a accepté cette séparation momentanée d'avec son Père. Pourquoi? Pour que nous ne soyons plus jamais séparés de Dieu. Jésus a vraiment été séparé de son Père pour que nous ne soyons plus jamais séparés de Dieu. Et il y a une promesse magnifique qui est dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 5, qui est pour toute personne qui a accepté Jésus, qui s'est repenti de ses péchés, qui s'est reconnu pécheur, pécheresse, qui a demandé pardon pour ses péchés, qui a dit merci à Jésus pour le pardon de ses péchés. Pour toi, pour moi, qui croyons en lui, nous avons cette promesse que Dieu fait. Et le verset dit bien que c'est Dieu lui-même qui parle. La Bible dit que c'est Dieu qui parle. En Hébreux, la fin du verset, chapitre 13, fin du verset 5, je vous le cite, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est une promesse que Dieu nous fait à tous qui croyons en lui. Promesse. Et lorsque Dieu promet, il tient toujours ses promesses. Et le verset prend bien soin de commencer. Enfin, la promesse est bien précédée. Dieu lui-même a dit, pour qu'on en soit sûr, si parfois vous vous sentez abandonné, reprenez ce verset. Il a promis d'être avec nous pour que nous ne soyons plus jamais seuls. Alors nous pouvons lui faire confiance en toutes circonstances, dans les bons et dans les mauvais moments. Mais pour cela, ça a coûté le prix fort à Jésus. Jésus a vécu la plus grande solitude que personne ne pourra jamais connaître, n'a jamais connue et ne pourra jamais connaître. Et Jésus, dans une faiblesse extrême, il a eu la force de crier « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Avec force. Alors qu'un crucifié, les crucifiés, ils mettaient entre 2 et 3 jours pour mourir. Et un crucifié, il mourait par asphyxie. Ils rendaient leur dernier souffle dans un état de faiblesse extrême. Leur dernier souffle, c'était un souffle soufflé dans une très grande faiblesse. Or là, ce n'était pas le cas pour Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus a donné sa vie pour nous volontairement. Il a dit, ma vie, je la donne, personne ne me la prend. Jésus est mort en quelques heures. D'ordinaire, un crucifié met 2 à 3 jours pour mourir. Jésus a donné sa vie au moment où lui a choisi de donner sa vie pour nous. Son dernier cri, c'est un cri de triomphe. Parce qu'il a donné sa vie pour nous, volontairement, au moment qu'il a choisi. Et c'est seulement après qu'il ait donné son dernier souffle que quelque chose que les Juifs ont dû être complètement abasourdis, le voile du temple s'est déchiré. Dans le temple, il y avait le lieu saint qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Le lieu saint, c'était les prêtres qui venaient offrir les sacrifices pour le peuple. Le lieu très saint, il n'y avait que le grand prêtre qui avait été autorisé à venir une fois par an offrir le sacrifice pour les péchés du peuple et de ses propres péchés, une fois par an, le grand pardon. Et là, le voile du temple qui séparait le lieu saint du lieu très saint s'est déchiré. Il s'est déchiré, vous avez remarqué le détail, du haut vers le bas. Pourquoi ? Parce que le ciel pouvait enfin descendre sur la terre. L'accès au lieu très saint, qui était la présence même de Dieu, il est ouvert à tous, aussi bien juifs que non-juifs, tous ceux qui croiraient en Jésus, devenu notre grand prêtre. L'accès est ouvert par le sang de Jésus. Alors Dieu s'est approché de nous, la séparation est enlevée. Et pourquoi s'est-il approché de nous ? Pour que nous nous approchions de lui. Épître de Jacques, chapitre 4, verset 8. C'est plus qu'une invitation, c'est un ordre. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est un ordre parce que ça serait une folie de passer à côté de ce qui a tellement coûté à notre Seigneur. Ça serait une folie que de se priver de cet accès que Jésus nous a ouvert pour nous. Une folie de se priver de Dieu alors qu'il est descendu jusqu'à nous. Oui, vous pouvez le prendre comme une invitation, mais une invitation solennelle. Même quand on ne se sent pas digne, peut-être là vous vous dites, ah non, dans l'état où je suis, avec ce que j'ai fait là, Dieu ne va pas m'accepter. Il t'acceptera. Parce que, pas à cause de toi, mais à cause de ce que Jésus a souffert. Si tu vas vers lui, dans la repentance et dans la foi. Mais pour cela, il fallait que Jésus descende et descende bien bas. Il est venu du ciel, sur la terre, il a été élevé sur la croix, il est mort sur la croix et son parcours n'était pas terminé. Il fallait qu'il descende encore plus bas, jusqu'au tombeau. Il a touché le fond. Il a touché le fond pour que nous n'ayons plus jamais à toucher le fond. Et la suite du récit montre que Jésus n'est pas encore ressuscité. Pourtant, sa mort a déjà changé des vies. Parce que la deuxième partie du récit montre, là, ce sont les croyants qui vont rentrer en scène. Après les croyants qui se sont moqués de Jésus, voilà que les croyants entrent en scène. Mon troisième point, la solitude de Jésus face à la mort nous fait sortir de notre solitude. Autant Jésus a vécu les dernières heures de sa vie terrestre dans une solitude complète et extrême, une souffrance extrême, autant sa mort va faire sortir de leur solitude plusieurs personnes qui vont devenir sa famille. C'est qui ? C'est nous, l'Église, tous ceux qui croyons en lui. Voyons, passons en revue les différentes personnes qui ont manifesté une foi, qui ont cru. Premièrement, il est question du centurion, centurion romain et de ses hommes. Et ils semblent avoir été grandement touchés par ce qu'ils ont vu et entendu. Tremblement de terre, résurrection de croyants, le voile déchiré, mais certainement aussi d'avoir vu et entendu Jésus pousser son cri avec une telle force a dû les convaincre que celui-ci était vraiment le Fils de Dieu. Et dans l'Écriture, ce sont eux, les premiers païens, qui confessent Jésus comme Fils de Dieu. Les premiers païens. Centurion et ses hommes. Deuxième série, ce deuxième groupe de croyants qui rentre dans l'histoire, les femmes. Nous savons, d'après les autres textes, que les disciples de Jésus l'avaient tous abandonné, sauf un, Jean. Ils avaient fui pour se cacher quand Jésus a été arrêté. Et d'ailleurs, après sa résurrection, ils étaient tous enfermés dans une même pièce. Ils avaient peur. Si eux avaient peur, les femmes étaient là. Les disciples femmes étaient présentes pendant la crucifixion. Elles avaient eu le courage d'être là. Oh, bien sûr, elles regardaient de loin. Alors que les disciples hommes étaient partis se cacher, elles étaient là. Elles furent les dernières à assister à la crucifixion. Les dernières personnes à assister à la crucifixion, à rester jusqu'au bout. À assister au dernier souffle de Jésus. À rester près de la croix. Et il y en a deux d'entre elles qui sont citées en Matthieu 28, chapitre 1. Matthieu 28, verset 1. On va le voir après. Deux d'entre elles, Marie-Madeleine et l'autre Marie, ce n'est pas Marie la mère de Jésus, elles seront les premières à se rendre au tombeau après le sabbat. Et ces femmes seront les premières témoins de sa résurrection. Les dernières à être restées près de la croix, les premières à être témoins de la résurrection. Parce qu'elles sont restées. Où sont les hommes ? Là, ils avaient fui, sauf Jean. Et on constate très souvent que les missionnaires sont des femmes. Oui, il y a des femmes qui partent parfois dans des pays qui n'est pas le leur, très loin. Il y a aussi des hommes, bien sûr. Mais très souvent, ce sont des femmes qui partent en mission. Troisième croyant, on peut dire groupe, ou en tout cas là, il s'agit d'une personne qui rentre dans l'histoire, Joseph d'Arimathée. Alors Joseph, Jésus avait commencé à le transformer aussi. Joseph, c'était un membre du conseil juif, le Sanhédrin qui avait condamné Jésus. Mais Joseph ne s'était pas joint à leur décision. Et d'après les autres évangiles, on sait qu'il était riche, qu'il était bon et juste, et qu'il était disciple de Jésus. Mais l'évangile de Jean nous dit qu'il était disciple de Jésus en secret, par crainte des Juifs. Or là, c'est plus le même Joseph. Et Jésus n'est pas encore ressuscité. Joseph courageux a le courage d'aller voir Pilate pour demander le corps de Jésus. Joseph, membre distingué du Sanhédrin, là, en faisant ça, qu'est-ce qu'il fait ? Il se désolidarise ouvertement du Sanhédrin et il est en train de sacrifier son prestige. Il est en train de sacrifier son prestige économique, son prestige social, son prestige religieux pour aller quoi ? Demander un corps, celui de Jésus. Joseph n'était plus craintif. Jésus l'avait déjà transformé et Jésus n'était pas encore ressuscité. Joseph, donc, qui obtient la permission de descendre Jésus de la croix, il le met dans un linceul et puis dans un tombeau qui devait lui appartenir, qu'il s'était fait tailler dans le roc et qu'il ferme avec une pierre, sous le regard de qui ? De Marie-Madeleine et Marie, qui sont là jusqu'au bout. Et on peut se poser la question, comment expliquer un tel attachement au Seigneur alors qu'il n'était pas encore ressuscité ? C'était un corps, le corps mort de Jésus. Ces personnes ont manifesté un attachement au risque de, en prenant beaucoup de risques. Comment expliquer que ces personnes se sont tellement attachées au corps de Jésus qu'il n'était pas encore ressuscité ? L'explication la plus plausible, c'est qu'elles aimaient le Seigneur au-delà de tout. Leur amour pour le Seigneur les avait déjà transformés au point de chasser leurs craintes. Et la Bible dit, dans le premier épître de Jean, chapitre 4, verset 18, « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait chasse la crainte. » Et ces femmes ont manifesté qu'elles n'avaient plus peur. Ni Joseph. Pourquoi ? Pourquoi autant d'amour pour le Seigneur ? Eh bien parce que le Seigneur a montré le plus grand amour. Et il l'a montré en mourant sur la croix pour tes péchés, pour les miens, pour ces femmes. Pour nous tous. Et c'est l'amour du Seigneur qui les a transformés, qui leur a donné cet amour. Et pourtant, le Seigneur était mort. Il n'était pas encore ressuscité. L'histoire ne s'arrête pas là. Avant de poursuivre, je vous invite à prendre un chant qui reprend cette histoire. Je vous invite à prendre le numéro 29 dans vos recueils. C'est On va sauter au chapitre 28, le verset 1, puisque effectivement, eh bien, l'histoire ne s'arrête pas là. Chapitre 28, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8, et je lirai. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elles courent porter la nouvelle aux disciples. Amen. Le Seigneur est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Sa résurrection, elle veut dire beaucoup de choses. Elle veut dire que le prix payé par Jésus a été suffisant pour que nos péchés soient pardonnés. C'est parce que Jésus est ressuscité que le prix qu'il a payé, il est suffisant. Sa résurrection montre aussi que Jésus a eu une triple victoire. Il a eu la victoire sur notre péché. Il a eu la victoire sur la mort parce qu'il est ressuscité. Et il a eu la victoire sur le diable qui doutait qu'il était le Fils de Dieu. Et il l'a prouvé. Jésus a prouvé qu'il était. Sa résurrection montre que nous pouvons être pardonnés de nos péchés. Alors, j'aimerais vous poser la question. Est-ce que ça change quelque chose pour vous ? Je me la suis posée. Hein. Est-ce que ça change quelque chose pour vous que Jésus soit vivant, soit ressuscité ? Sa mort avait déjà changé les croyants de l'époque. Les femmes, Joseph, le centurion, il n'était pas encore ressuscité et pourtant, des personnes avaient été transformées. Et maintenant qu'il est ressuscité, est-ce que sa résurrection change quelque chose dans ta vie ? Est-ce que la foi en sa résurrection, la foi en sa résurrection devrait nous changer ? Pourquoi ? Mais parce que c'est Jésus lui-même qui nous change, parce qu'il est vivant. C'est lui qui te change, qui me change. Peut-être il y en a, soit ici, soit qui entendent au loin, peut-être il y en a qui n'ont pas encore placé leur confiance en Jésus pour être pardonnés de leurs péchés. Gilles Georgel a écrit un livre que je vous recommande qui raconte la vie de Jésus hein, jusqu'à sa mort et sa résurrection. Ça s'appelle Le Grand Visiteur. Et il a comparé la croix à un carrefour. Un carrefour, c'est-à-dire un lieu de rencontre entre Dieu et l'homme. Et le sacrifice de Jésus met toute personne devant un choix. Soit continuer sa route tout seul, soit continuer avec Dieu, faire un demi-tour pour être toujours avec lui, plus jamais seul. Et pour nous qui croyons, il y a une application aussi. Si vous reprenez le début du texte que j'ai lu précédemment, pas juste avant, hein, chapitre 27, le texte a commencé par un homme qu'on ne connaît pas, on sait qu'il vient d'Afrique du Nord, Simon de Cyrène. Simon l'a forcé à porter la croix de Jésus. Et notre texte se termine par le témoignage de personnes croyantes qui ont porté leur croix. Elles ont eu du courage, librement, de leur propre choix. Pourquoi ? Parce qu'elles ont aimé Jésus, elles ont cru en lui. Elles, personne ne les a forcées. Elles ont porté la croix parce que c'était un risque ce qu'elles ont fait, Joseph et ses femmes. Et porter notre croix et marcher à la suite de Jésus, ce n'est pas réservé à quelques-uns. C'est ce que telle devrait être la vie de tout croyant, de tout chrétien, quel que soit ton arrière-plan, quelle que soit ta durée de vie chrétienne. Jésus a dit ceci en Luc, l'évangile de Luc, chapitre 9, verset 23, et il s'adresse à tous. Puis il dit à tous, Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, qu'il me suive. Qu'il se charge chaque jour de sa croix, qu'il me suive. C'est un acte volontaire, quotidien, une invitation à chaque jour prendre notre croix pour suivre Jésus. Un acte volontaire. Alors, c'est quoi porter sa croix? C'est à toi de répondre, tu connais ta croix. Est-ce que vous avez déjà entendu dire « Ah, ça c'est ma croix, il faut que je la porte ». Oui, peut-être parce qu'il y a un problème familial qui n'est pas réglé, qui est récurrent chaque jour. C'est ma croix, je porte ma croix. Mais cette croix dont parle Jésus, c'est pas de celle-là. C'est une croix volontaire que Jésus nous invite à nous charger, volontairement. Ça peut être par exemple décider d'aller voir une personne qui souffre de la solitude. Et il y en a. Il y a des personnes âgées qui ne demandent qu'à être visitées dans l'église ou à l'extérieur. Peut-être des personnes qui ne sont pas venues à l'église parce qu'elles ont honte. Elles ont peur d'être jugées. Elles se sentent seules. Elles s'inquiètent de ce que les autres pensent. Aller visiter des personnes seules. Je connais deux dames de ma première église à Villiers-le-Bel qui ont pris la décision d'aller voir les personnes âgées qui sont seules pour leur rendre visite. Et parfois, effectivement, les personnes âgées sont parfois... Est-ce qu'on pense à elles? Oui, la plupart du temps. Et parfois, il y en a qui souffrent de la solitude. J'ai perdu mon père il n'y a pas longtemps. Ma mère s'est retrouvée seule. Elle a manifesté un grand... que la solitude lui pesait beaucoup. Ces deux sœurs de ma première église sont allées la voir. Et elle a dit combien ça lui a fait du bien. Alors ma mère, elle est sur le chemin. Voilà. Et elle a été l'objet de cette croix volontaire que ces deux femmes ont portée. Et elles l'ont fait avec joie. Alors, c'est à toi de trouver ta croix et de t'en charger. On a chacun la nôtre. Mais rappelons-nous que la croix la plus lourde, c'est le Seigneur qui l'a portée pour nous tous. Et rappelons-nous aussi que son fardeau, il est léger. Il le dit lui-même. Et même, porter notre croix, ça sera notre repos. Si tu te charges de ta croix, ça sera ton repos. Et je termine avec ce passage que Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 28. C'est Jésus qui dit, Matthieu, chapitre 11, verset 28 à 30. C'est une invitation. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Oui, Seigneur, comment ne pas te remercier, Seigneur, face à tout ce que tu as enduré pour nous, Seigneur, pour vivre la vie avec toi, Seigneur, tout le temps, en permanence. C'est ce que tu veux, parce que tu nous aimes tant, Seigneur, et tu ne veux pas qu'on s'en prive, tu ne veux pas qu'on se prive de toi. Merci parce que, Seigneur, on peut s'approcher de toi, toi le créateur de l'univers. On peut s'approcher de toi par ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, comment ne pas te louer? Seigneur, oui, aide-nous. Rappelle-nous, Seigneur, que l'accès est ouvert. Nous pouvons tout te dire, Seigneur. Nous pouvons te partager nos bons moments, nos mauvais moments, notre solitude, nos joies, nos faiblesses, nos souffrances. Nous pouvons tout te dire, Seigneur. Seigneur, vraiment que chacun nous fassions l'expérience que tu es là. Parce que tu as accepté d'être abandonné, Seigneur, de ton Père, pour ne plus jamais nous abandonner. Cette souffrance extrême qui a duré 3 jours, c'était pour nous. Alors, Seigneur, je te remercie que vraiment tu sois notre paix, notre joie. Qu'on vive, Seigneur, dans ce monde qui va de plus en plus mal, qu'on vive avec toi, Seigneur, avec l'espérance, oui, de la résurrection, l'espérance et l'assurance que tu es là, présent. Seigneur, nous te le demandons et je te remercie pour pouvoir nous rappeler ces choses, Seigneur, à cette occasion de Pâques, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.